J'ai plusieurs lectures à faire. Une première dans Romains 13, du verset 1er au verset 5. Ensuite, Matthieu 28. Romains 13, tout d'abord. Romains 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais le bien et tu auras son approbation. Car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Un passage très polémique dans le sens où il fait beaucoup couler d'encre, il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup, voilà, on a tendance à le sauter un petit peu. Pourtant, c'est un passage important, on va le voir, mais il faut bien le comprendre. Le deuxième passage, c'est dans Matthieu, chapitre 28, verset 18. Alors Jésus s'approcha de ses disciples et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » À propos de baptême, Jean-Samuel prendra son baptême dimanche prochain, pendant le culte. Il n'y a qu'un seul baptême. Ben, ce sera une fête de pouvoir le baptiser durant ce culte dimanche prochain. On se réjouit. Et voilà, donc on est dans l'ordre du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle et de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ce qu'on va faire aussi. Alors, ces deux passages, mais bien d'autres, hein, vous pouvez noter Matthieu 7, 29, Éphésiens 5, 21, qu'on reverra pendant l'enseignement, qui est l'enseignement sur l'autorité. Alors je vous avoue que moi-même, je n'ai pas compris beaucoup cet enseignement-là, et en particulier Matthieu 13, que je zappais souvent, je le lis comme vous, hein, bon. Mais voilà, les conséquences. Romains 13, pardon. Voilà, je zappais un peu dans le sens où voilà, il y a eu beaucoup d'exagération en partir de ces versets. Et je voulais bien comprendre quel était l'enseignement scripturaire à propos de l'autorité. La deuxième chose que je voulais dire, et là je l'ai perdue, il y avait ça. Voilà, la deuxième chose, alors c'est pas pour me disculper, hein, mais c'est que, une fois de plus, Louis II, pour ceux qui ont la Bible Second, qui est une des Bibles, la traduction, il s'est trompé. Voilà, donc, une fois de plus, problème de traduction du grec au français, qui fait que ça aide à ne pas bien comprendre la question de l'autorité. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Une grosse erreur de traduction. Comme le dit Michel, qui a fait de l'italien, traduttore, traître, souvent. La traduction trahit la pensée initiale du passage. La Bible est inspirée dans l'original. Hein. Ça a été inspiré aux apôtres qui l'ont écrit en grec. Ils auraient pu l'écrire en javanais, c'est pas le problème. Mais c'est l'inspiration de la parole, c'est-à-dire ce que Dieu voulait dire qui est important. Voyez. Donc effectivement, il faut faire attention à ne pas déformer la pensée originelle. Et c'est ce qui se passe avec Louis II sur cette question de l'autorité. Alors, quelques définitions au préalable. Alors, moi, j'ai appris peut-être plus que ce que je vais vous apprendre hein, au travers de ce message. Et je suis reconnaissant aussi au Seigneur de ce qu'à un moment donné, après 50 ans de service pour le Seigneur, je commence à comprendre des choses. Voilà, c'est bien. Le mot « autorité » en grec, donc dans l'original, c'est « exousia ». Alors, je vous donne un petit truc que je ne savais pas non plus. Hein, je l'ai appris avec Jackie Ford. Hein, vous voyez comme quoi, parfois, on met du temps à savoir des choses. Que si vous ne connaissez pas le grec, comme c'est mon cas, ici, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, il y en a quelques-uns qui connaissent le grec, ben, vous utilisez la Bible Strong. Voilà. La Bible Strong, d'un monsieur qui s'appelle Strong. Il a fait une Bible où tous les mots ont un numéro. Strong, et si vous allez sur Top Chrétien, ils ont la Bible Strong, et vous avez les mots grecs, et quand vous cliquez dessus, vous avez l'explication de ce mot. Alors bien sûr, les traducteurs ont pris une explication, parce qu'un mot, exousia par exemple, veut dire à l'époque en grec certaines choses, et après vous cliquez sur la première définition, la deuxième, ou la troisième, la quatrième, et c'est ça le problème de la traduction, c'est que si vous prenez la mauvaise utilisation du mot, eh bien vous avez une autre compréhension du texte, c'est ça le problème, donc je ne jette pas la pierre, c'est simplement quand vous n'êtes pas dans la théologie, la propre théologie, bien vous n'avez pas tendance à utiliser la bonne traduction, c'est ça, c'est un problème de compréhension théologique. Donc autorité, le mot autorité vient de exousia. Exousia qui est utilisé par exemple là, dans ce passage-là, tout pouvoir, et en fait tout exousia, et il n'aurait pas dû traduire pouvoir, il aurait dû mettre autorité, toute autorité. Certaines Bibles, je pense, je ne sais pas s'il y en a qui ont les Bibles qui marquent autorité. Dans certaines Bibles, peut-être il n'y a pas cette erreur-là. Mais dans Louis II, il y a l'erreur. Tout pouvoir, c'est pas tout pouvoir, il aurait dû mettre toute autorité. Hello? Ah, en anglais, c'est autorité. Ouais, King James, voilà. Ils disent que King James, ce sera la Bible qui sera au ciel. Bon. C'est vrai que les Anglais sont plutôt pragmatiques et en général, ils trouvent mieux les mots qu'en français. Enfin, peu importe. Je ne vais pas faire de la polémique là-dessus. Autorité. Exousia. Il y a deux mots qui sont importants dans ce domaine de l'autorité. C'est le mot exousia et le mot dynamis. Bon, dynamis, lui, il a toujours été bien traduit parce que ça donne dynamite. La dynamite, on sait que c'est de la force, de la puissance, c'est voilà, c'est explosif, c'est la vie, enfin la vie ou la mort, c'est, voilà. Mais c'est très fort, très fort. Donc dynamis, oui. Ah, mais tant mieux. Vous avez moi dans la colombe, c'est pouvoir. Hein. Oui, mais parce que c'est des seconds révisés, c'est plus le second original. Oui, parce qu'ils se sont rendus compte des erreurs. Donc, effectivement, tant mieux. Donc, ceux qui ont ça, ils devraient comprendre ce que je vais enseigner. Alors que moi, je ne pouvais pas le comprendre. Je plaisante, mais c'est vrai que j'ai dû pencher sur la question pour comprendre. Vous comprendrez tout à l'heure dans les prochaines planches. C'est capital, la question de l'autorité dans la Bible. Comme certains enseignements, l'autorité, quand on comprend bien ce que la Bible parle par l'autorité, on comprend mieux d'autres choses aussi dans la Bible. Donc, deux mots qui seront à l'ordre du jour de ces enseignements, c'est autorité, pouvoir, exousia, dynamis. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'autorité ? Eh bien, c'est tout simple, c'est le droit de commander et d'être obéi. C'est le droit de commander et d'être obéi. Alors que le pouvoir, c'est la capacité de commander. Voyez-vous, le pouvoir, c'est le moyen utilisé pour commander. Alors que l'autorité, c'est un droit, voire un devoir. Quand vous êtes dans une position d'autorité, vous êtes obligé. Sinon, il faut dégager. Je veux dire, une position dans laquelle vous êtes pour exercer une responsabilité, quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit politique dans le monde, qu'elle soit dans une entreprise, qu'elle soit à la maison, on verra que toutes ces applications couvrent toute la vie, ou dans l'église, eh bien, c'est un devoir de l'exercer parce qu'il vous est donné. On verra ça tout à l'heure, le principe de l'autorité. Mais en tout cas, on est dans un droit, voire un devoir, l'autorité. Alors que le pouvoir, c'est le moyen que vous utilisez. Vous pouvez utiliser de la dynamique pour vous faire obéir. Voilà, si le rocher vous résiste, vous êtes en autorité, vous mettez une dynamite, et puis le rocher, voilà, il dégage. Bon, c'est pour pousser les choses à l'extrême, mais vous avez d'autres types de commandements, des moyens. Et on confond souvent le pouvoir et l'autorité. Alors, je suis reconnaissant au Seigneur de ce qu'il nous a fait passer l'Église dans une difficulté. Je ne suis pas reconnaissant pour la difficulté. Je suis reconnaissant de ce que Michel et moi, on a appris dans la difficulté de 98 qui remonte 10 ans avant, où les difficultés ont commencé, mais on a souffert. On a appris une maxime, enfin une maxime maintenant qui est bien connue de vous tous, c'est clarté, droit, autorité. Du coup, j'aurais dû comprendre ce que je vous enseigne aujourd'hui depuis très longtemps, puisque nous l'avons expérimenté et que c'est une maxime. C'est-à-dire que c'est un principe, un concept, une démarche qui est biblique et qui, si on l'utilise, ça marche. Hein? Olivier un jour a dit à Karl, à son patron, là, ah oui, tiens, mon père, il dit ça. Il dit, ah oui, il a raison, mon père. C'est ça. Hein? Donc même les inconvertis arrivent à saisir ce concept et voir qu'il est juste, parce qu'il vient de Dieu. C'est-à-dire que quand on fait la clarté, clarté dans des situations, clarté, vous avez vu, la semaine dernière, on a fait la clarté sur le rôle du gardien, parce que voilà, c'est pas évident de donner un poste à un gardien. On a eu souvent des problèmes avec des gardiens, et pas que nous, hein, parce que voilà, c'est un rôle important où ils contactent les membres de l'Église et même d'autres personnes, et c'est important de savoir quelles sont les limites. Donc la clarté permet de dégager cela. Ensuite, après, on établit le droit, hein, qui est un devoir après, le droit qui définit certaines choses. Donc on l'a fait en disant en clair, voilà, tu peux faire ça, 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 on te demande ça, 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 en compensation, etc. Donc ça conduit au droit. Et en fait, l'autorité, c'est simplement l'utilisation de ce droit. C'est que maintenant, elle est dans une position d'autorité, mais pas sur tout. Elle peut commander certaines choses. Mais pas n'importe quoi. Voyez alors, on n'a pas été exhaustif. Hein, donc après, il y a l'esprit dans lequel tu vas travailler. Hein, tu vois. Et dans chaque rôle, c'est pareil. Voyez dans le rôle de père, dans le rôle de mère, on l'appliquera à la rentrée sur les familles, hein, cette notion d'autorité. C'est absolument important de bien comprendre ce qui vient de Dieu et ce qui vient des hommes. C'est d'autant plus important aujourd'hui que dans l'histoire, il y a eu mai 68. Qu'est-ce qui s'est passé à mai 68? Moi, j'y étais. C'est là que je me suis converti, enfin, juste un petit peu avant, mai 67. Je me suis converti et j'ai connu ce que le général de Gaulle, qui a libéré la France, a dit que c'est la chienlit. Voilà, c'est la chienlit. Même lui, libérateur de la France, libérateur un truc, il a pris l'hélicoptère et il est parti à Bonn parce qu'il a dit c'est la chienlit. Il ne pouvait plus commander. Son autorité de président de la France, président de la République, et d'ailleurs sa carrière s'est terminée après ça, hein. C'était fini. Il a complètement dégagé. Mai 68, qui aux États-Unis c'est plutôt 66, hein. Il y a aussi la révolution des mœurs qui a eu lieu un petit peu avant. Nous, c'est 68. Ah, 66, non? Ou 65, je ne sais plus. Dans ces eaux-là, hein. Mouvement hippie et tout. Eh bien, c'est simplement, on dégage l'autorité. On ne veut plus d'autorité. Voilà. Et vous voyez aujourd'hui ce que ça donne. Hein. Ma propre mère, hein, qui n'était pas une sainte, hein, mais bon, elle avait une grande sagesse, elle a dit à ses belles-filles, donc Michel, j'ai deux autres belles-filles, elle a dit, vous savez, pour vous, c'est beaucoup plus difficile que pour moi, pour d'élever les enfants. C'est beaucoup, beaucoup plus difficile pour moi. Parce que moi, quand mes enfants, je les ai amenés à l'école, tous les parents avaient les mêmes valeurs. Il ne parle pas de chrétien, de pas chrétien, il y avait les mêmes valeurs. Donc en fait, quand on élevait l'enfant, bah, les mêmes valeurs sont transmises par l'entourage. Et donc il y a une continuité dans le fait d'élever les enfants dans des valeurs, dans des façons de faire, machin, etc. Et dit maintenant c'est fini, plus personne n'ose dire un enfant. Regardez, je vous fais pas de dessin. Et plus ça va, plus l'autorité est bannie. À l'époque, je crois Isabelle était toute petite aussi, hein, avec son papa à Paris, dans plusieurs bouches de métro, c'est marqué « il est interdit d'interdire ». Voilà. Il est interdit d'interdire. C'est-à-dire que l'autorité, on n'en veut plus. C'est fini. On en a soupé depuis l'âge glaciaire, je ne sais pas où. L'autorité, maintenant, c'est fini. Donc, vous voyez, c'est vraiment un tournant des mœurs. L'autorité, on n'en veut plus. Au panier. Et voilà, le résultat, c'est que plus ça va, plus on retrouve le temps de Noé, comme le dit l'Écriture, comme au temps de Noé. Il faut... Voilà. La Bible est très claire là-dessus. Donc, clarté, droit, autorité, c'est une démarche. Et quand on arrive à l'autorité, eh bien après, il y a la suite, c'est le pouvoir. Mais beaucoup veulent du pouvoir, mais sans l'autorité. Alors, vous allez comprendre ça. Moi, j'ai eu du mal à comprendre ça. Mais beaucoup veulent le pouvoir. Voilà. Ils veulent saisir les moyens de se faire obéir, mais ils ne respectent pas l'autorité. Et on va voir ce que c'est que réellement l'autorité selon la Bible. Alors, il y a deux catégories d'autorité quand même qu'il faut distinguer. C'est l'autorité divine de Dieu et l'autorité humaine. En Dieu, il y a une autorité. Mais elle est parfaite, on est d'accord. Auprès de l'homme, dans l'humanité, il y a aussi l'autorité, et Romain en parle, et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce mécanisme pour pas mal interpréter Romain 13. D'ailleurs, Luther a eu des gros problèmes avec ça, puisqu'il y a eu la révolte des paysans qui ont fait des milliers de morts, et qu'on lui a imputé, peut-être à tort, mais en tout cas, il a mal géré, à cause du mauvais usage de ce passage de Romains 13. Il fallait obéir au Seigneur, quelles que soient les conséquences. Donc, l'autorité humaine est faillible. Ce n'est pas pour autant qu'elle n'a pas été instituée par Dieu, mais elle est faillible. Donc, on va voir, peut-être pas aujourd'hui, les subtilités de cette faillibilité, comment la considérer. Elle est corrompue. Mais elle est quand même permise par Dieu, ou instituée par Dieu. Il y a trois types d'autorité, l'autorité de pouvoir, l'autorité de fonction et l'autorité de compétence. Mais je ne vais pas trop rentrer là-dedans, c'est un peu plus technique, mais savoir qu'on a une façon d'avoir l'autorité par les lois, par la réglementation, par la constitution. Jésus l'a fait dans Matthieu 16, quand il a instituer l'Église. L'autorité de fonction, c'est hiérarchique, c'est l'organisation. Aujourd'hui, maintenant, on est une organisation plus agile, où il y a une hiérarchie, mais plus souple. Dans l'Église, il y a une organisation aussi, c'est l'autorité de fonction. On reçoit, on rentre dans une fonction, dans un office, comme l'office du gardien. Et l'autorité de compétence, c'est celui qui sait, le savoir, qui peut exercer l'autorité. Et qu'on appelle aussi l'autorité charismatique, qu'on reçoit des charismes, on reçoit des dons du Seigneur pour exercer l'autorité. Alors, une petite réflexion qui vous paraîtra évidente, comme le dirait M. Lapalisse, d'où vient à l'homme le droit de commander? Puisque l'autorité, c'est le droit de commander. Est-ce qu'il vient de lui-même? Pourquoi? Parce que tous les hommes sont égaux par nature, on est d'accord. Donc pourquoi il y en a un qui prendrait l'autorité sur l'autre? Il n'y a pas de fondement. Il n'y a pas de fondement de l'autorité dans l'homme. Est-ce qu'elle est dans la société? Est-ce que c'est la société qui peut donner à un homme, un leader, un responsable, une autorité? Ben non. Non, parce que la société n'est qu'une réunion d'hommes et n'est pas plus par elle-même le droit de commander qu'un seul homme. Ce n'est pas parce que plusieurs hommes se mettent ensemble qu'ils peuvent commander d'autres hommes, ils sont tous égaux. Donc déjà là, ce n'est pas un fondement. Alors, de qui vient l'autorité et toute espèce d'autorité? La réponse, c'est Romains 13, verset 1. Alors, dans la mienne, c'est pareil, c'est mal traduit. Enfin, c'est plus difficile à comprendre. Moi, j'ai toujours du mal avec les négations. Deux négations, voilà, une affirmation. Voilà. Donc, j'aime pas les négations parce que ça me fait travailler les méninges là un peu trop. Et j'aime pas trop faire ça. Donc voilà ce qu'il dit. Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Ça veut dire quoi? Plus simplement, toute autorité vient de Dieu. Vous l'avez écrit, vous l'avez dans vos Bibles? Ah ben, je préfère ça. J'aurais mieux. Ben, je vais changer ma Bible, hein, parce que. Oui. Mais les mathématiciens comme toi, tout ça, c'est facile, c'est des logiques, deux négations, voilà. Oui. Moi, je préfère, toute autorité vient de Dieu. C'est plus clair. Disons, c'est direct, c'est plus clair. C'est la même chose. Bon, bien sûr, il y a des nuances après, toute autorité qui ne vienne de Dieu, etc. Donc, toute autorité vient de Dieu. Disons-le tous ensemble. Toute autorité vient de Dieu. Voilà. C'est la parole de Dieu. C'est Romains 13, verset 1. Toute autorité vient de Dieu. Répétons-le. Toute autorité vient de Dieu. Voilà. Donc une fois cette pierre angulaire est posée, on voit que ça ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu. Donc après, il faut comprendre comment l'autorité fonctionne entre Dieu et les hommes. Mais en tout cas, toute autorité vient de Dieu. Donc l'autorité, je ne parle pas du pouvoir, justement pour éviter ce mélange, hein, les moyens, l'autorité vient de Dieu, quelle que soit l'autorité. Que ce soit l'autorité dans le couple, l'autorité dans la famille, l'autorité dans le monde civil, l'autorité dans le monde religieux, toute autorité vient de Dieu. Donc il faut partir de là, voyez-vous. Je vous apprends un peu comment moi je fonctionne. Moi je pars de choses solides, concrètes, qui sont immuables, qu'on ne peut pas enlever, et viennent de la parole. Et la parole, c'est le fondement. Donc moi je pars de là, toute autorité vient de Dieu. Voilà. Alors, une fois ça posé, on peut aller plus loin. Et en plus, dans Romains, il est écrit « Celui qui s'y oppose attire une condamnation sur lui-même. » Alors là, on est dans la malédiction. C'est-à-dire qu'on se maudit soi-même. Hello ? C'est quand même pas rien. Si vous considérez que c'est la parole de Dieu, toute autorité vient de Dieu, et celui qui s'y oppose se condamne lui-même. Je veux dire, voilà, donc je suis en train de me maudire. Voyez ? Donc moi je dis que c'est quand même très grave. Enfin grave au sens d'important, au sens de poids. Voyez ? Ce sont des versets qui ont du poids et qui méritent qu'on s'y attarde peut-être plus que d'autres, comme, voilà, je ne veux pas négliger d'autres sujets, mais quand même c'est un sujet absolument capital. Toute autorité vient de Dieu, celui qui s'y oppose attire une condamnation sur lui. Dans ce mot autorité, se trouve la raison du droit. C'est-à-dire pourquoi le droit est important et quelle est l'origine de cette raison. Et comme je disais, nous, on a compris ça en 98, quand on a vu qu'une image que je reprendrai tout à l'heure, qui est l'image de l'autorité, c'est quand Moïse rencontre Dieu sur la montagne du Sinaï, et que Dieu lui donne les 10 commandements, et qu'il lui demande de constituer le peuple à partir de la loi des 10 commandements, et qu'il lui dit « Maintenant, tu vas chez Pharaon et tu vas libérer mon peuple. » Enfin, non, c'est les 10 commandements, c'est après, pardon. Donc, tu vas libérer... Je me suis mélangé. Tu vas libérer mon peuple. Et lorsqu'il est allé chez Pharaon, qu'est-ce qu'il avait dans la main? Pardon? Voilà, il avait un bâton. Alors, j'ai pas de bâton, mais j'ai quelque chose qui est équivalent au bâton. Okay. Donc admettons que ce soit un bâton, ça s'appelle un sceptre d'ailleurs chez les rois. Il avait un bâton et il est allé voir le pharaon. Ah, tu fais le pharaon. Il est allé voir le pharaon. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ce sceptre? Pardon? Il l'a jeté. Et qu'est-ce que le bâton est devenu? Et qu'est-ce qu'il a fait après? par la... Pas par la tête. Par la queue. Et hop, c'est redevenu un bâton. Ça, c'est l'image de l'autorité. C'est-à-dire que l'autorité est bien utilisée par Moïse. Quand elle est utilisée par Pharaon, ça devient un serpent. Mauvaise autorité, mauvais usage du droit que le Pharaon avait reçu. Il avait contraint le peuple juif à devenir des esclaves. Et Moïse, qui a reçu l'autorité, eh bien, il fallait qu'il utilise cette autorité. Et il fallait qu'il prenne le serpent, qu'il le prenne, et qu'il conduise le peuple avec la bonne autorité. C'est une image qui est très intéressante, qu'on va utiliser plus tard pour savoir comment utiliser l'autorité. Le sceptre, c'est l'autorité du roi, du monarque, de celui qui dirige. Et quand il est élu, quand il est mis en position, s'il n'utilise pas l'autorité qu'il a reçue, ça va se transformer en serpent. Et c'est comme ça que les esprits de Jézabel peuvent exister dans les églises. On a parlé avec Blandine l'autre jour. Oui, c'est tout simple. Nous, on a été victimes de ça, parce que moi qui étais, voilà, j'avais 20 ans, quand mes 68 éclataient, parce que je suis né en 48, mes 68, 20 ans, vous voyez, tous les espoirs de jeunesse sont ouverts, on veut changer le monde, on va faire un tas de choses, etc. Enfin, c'était mon cas aussi. Comme aujourd'hui les jeunes, c'est normal, on veut tout changer. Et puis, en 68, eh bien, moi aussi, j'ai suivi le courant, j'ai dit, maintenant, l'autorité n'est pas bonne. Oui, c'est vrai, ils ont raison. Ouais, vous vous rendez compte, à l'époque, c'était inadmissible. Madame de Gaulle, comment elle s'appelait, je ne sais plus. Yvonne, vous vous rendez compte, elle était assise derrière dans la DS, et quand il revenait, là, je ne sais pas où, le week-end, elle passait devant des grandes images, peut-être qui étaient un peu dénudées pour certaines femmes, je ne sais pas, enfin, ça n'a rien à voir aujourd'hui, mais voilà. Et le lendemain, à l'Élysée, elle a dit, écoutez, en France, toutes ces images-là, vous les enlevez, voilà. Donc toutes les affiches ont été enlevées parce qu'Yvonne a dit non, c'est pas bon. On dit, mais attends, c'est pas possible que Yvonne ait géré notre vie, quoi. Les Français, on a le droit d'avoir des images pornographiques et tout ça, vous voyez, c'est le refus de l'autorité. Elle qui pensait effectivement voilà, à préserver les enfants, les jeunes, enfin, etc., elle faisait son boulot à son niveau. Ouais. Non. Ben moi, j'étais comme ça. J'ai dit non, l'autorité n'est pas bonne. Moi aussi, j'étais abusé. L'autorité, bon, etc. Comme tout le monde. Hein. On a tous des expériences de mauvaise autorité. Mais du coup, j'étais là-dedans. Et quand le Seigneur m'a demandé d'exercer une responsabilité dans l'Église, avec Michel, bon, tous les deux le même paradigme, si vous voulez, de l'absence d'autorité, ou au moins diminuer l'autorité, bon, on ne voulait pas exercer l'autorité. On dit, ben non, l'Église va se gérer tout seul, c'est bien, on va faire du pastorat, on va prendre soin des gens, tout ça. Enfin, tout ça, on l'a fait, on n'a pas changé de ce point de vue. Mais l'autorité, non. Et voilà, ce qui devait arriver est arrivé. Le bâton qu'on n'a pas pris, ben, il s'est transformé en serpent et s'est retourné contre nous. Voilà. Donc, vous voyez, on a vécu dans la chair, ces choses-là. Donc, c'est d'autant plus facile pour moi de vous expliquer le mécanisme. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. L'esprit de Jézabel, c'est-à-dire l'esprit qui est aussi rentré dans Hérodiade au moment où Jésus, Jean-Baptiste, a été coupé la tête. Hein, c'était Hérodiade qui lui a fait couper en jouant sur son mari, en disant « ce gars-là, tu me le dégages hein. ». Et puis, elle a dansé et puis elle a obtenu l'autorisation de lui couper la tête. Toutes ces personnes, c'est le même esprit. C'est un esprit d'anti-autorité. On appelle d'ailleurs, dans les livres qui sont bien faits sur l'esprit de Jézabel, l'esprit d'anti-autorité. C'est l'esprit de Jézabel, mais ce n'est pas spécial à Jézabel. En tant que femme, c'est un esprit qui contre l'autorité. C'est l'esprit de Satan, lui-même, qui veut prendre la place de Dieu, qui lui est l'autorité. Parce qu'il n'y a qu'une autorité, c'est Dieu. Satan, ce n'est pas une autorité. Satan veut usurper l'autorité. Alors, il veut prendre une place que Dieu lui interdit parce qu'il voulait la prendre de la mauvaise manière et exercer un mauvais pouvoir, son pouvoir à lui. Le pouvoir, c'est centré sur soi. Et donc là, on exerce mal l'autorité. Alors, puissance et autorité. Dans Luc, chapitre 9, verset 1, là aussi Louis II s'est planté, sauf peut-être dans la seconde révisée, je ne sais pas. Jésus envoie les 12 et il leur donne la puissance et autorité selon Louis II. Alors que les deux mots, c'est dynamis et exousia. Oui, Louis II traduit par force et pouvoir. Il donne la force et le pouvoir. Alors qu'en fait, il faut traduire puissance et autorité. Donc dynamis et exousia. Vous regarderez dans la Strong, c'est tout à fait correct. Vous avez puissance et autorité ? Ok. Bon, bah c'est bien. Donc vous comprenez le message de ce matin, que c'est l'autorité qui leur a donné. C'est-à-dire une position. Une position pour exercer le pouvoir. Vous ne pouvez pas exercer le pouvoir correctement si vous n'avez pas l'autorité. Il faut d'abord l'autorité, et ensuite, après, vous pouvez exercer le pouvoir. Mais si vous faites l'inverse, vous usurpez l'autorité. Alors, on peut définir donc le pouvoir par la capacité, la force, je veux le faire, je veux l'appliquer. Et l'autorité, c'est le droit qui est garanti par l'autorité supérieure. Alors, on peut, dans Actes 1:8 aussi, c'est marqué, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, ça c'est le pouvoir. Vous voyez, le Saint-Esprit, c'est le pouvoir, c'est la puissance pour pouvoir obéir à Dieu et aux hommes. Jésus affirme à Pilate, tu n'aurais sur moi aucune autorité. Là aussi traduit par pouvoir par Louis II. Tu n'aurais sur moi aucune autorité s'il ne t'avait été donné d'en haut, dans Jean 9. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, quand il est devant Pilate, qui le condamne sur la pression du peuple, il lui dit, malgré l'apparence, Pilate n'avait pas de puissance sur Jésus, parce que Jésus pouvait le détruire instantanément s'il le voulait. Vous êtes d'accord avec ça? Il appelait une légion d'anges, n'importe quoi. Pilate, c'était un tas de cendres. Donc le pouvoir, il ne l'avait pas. Par contre, Jésus a bien dit, tu as reçu l'autorité. C'est-à-dire, tu as reçu l'autorité de Dieu, le droit de me condamner. Parce que ça allait dans le sens de l'histoire, pour que Jésus puisse expier la croix. Et vous, le diable fait une œuvre qui le trompe. Mais en tout cas, il avait l'autorité et Jésus l'a désigné. Tu as l'autorité pour me condamner, mais pas la puissance, pas le pouvoir de me détruire. Le deuxième point, donc ça, le premier point, c'est la puissance et l'autorité, bien faire la différence. Le deuxième, c'est pour exercer l'autorité, au préalable, il faut se soumettre. Ça c'est un point absolument fondamental. Si vous voulez exercer une bonne autorité, l'autorité qui est biblique, il faut d'abord apprendre à se soumettre. Si une personne d'autorité n'est pas soumise à quelqu'un de supérieur, il ne peut pas exercer une bonne autorité. C'est pour ça, récemment, on a introduit l'État. L'État, bon, je n'irai pas en politique, mais l'État, c'est effectivement quelque chose qui diminue un peu les abus de l'autorité de la monarchie absolue, comme la France en a connu avec Louis XIV. Et donc, c'est beaucoup plus près de l'enseignement de l'autorité, à savoir la séparation des pouvoirs que Montesquieu introduit, etc., que la monarchie absolue. Ça, c'est une façon de gouverner pour diminuer les risques de la corruption qu'on connaît en tant que nature humaine. Alors, pour revenir à la soumission, l'autorité n'est légitime et efficace qu'à la condition préalable de soumission de la part de celui qui l'exerce. Vous prenez un exemple qui est très facile à comprendre. C'est dans Luc, chapitre 7, versets 1 à 10, qui illustre ce principe. Jésus demande, demandant à Jésus de guérir son serviteur, vous vous rappelez, c'est le centenier. Le centenier rappelle sa propre condition dans l'armée. Voilà ce qu'il dit. Il dit, je suis soumis à des supérieurs. C'est Epo exousian tassoménos en grec, c'est-à-dire me tenant sous une autorité. Donc le centenier dit, me tenant sous une autorité, je dis à un soldat, va et il va, et il le fait. Donc parce qu'il est soumis à son autorité supérieure, il est certain que son autorité sera efficace sur ses subalternes. De la même façon, il ne doute pas que l'autorité de Christ sera efficace sur la maladie de son serviteur, sous-entendu à cause de sa soumission à son autorité supérieure, celle du Père Céleste. Voyez-vous, il avait compris ce principe et Jésus qualifie l'analyse de ce centenier de grande foi. Donc, vous voyez la foi en rapport avec l'autorité. De grande foi. Du reste, Jésus n'a pas prié pour son serviteur malade, vous le savez, mais c'est le centenier qui l'a guéri, son serviteur malade. Pourquoi ? Eh bien, grâce à sa foi. Qu'il te soit fait selon ta foi, lui dit Jésus. Et le serviteur fut guéri. Vous voyez la puissance du respect de la bonne autorité qui est toute simple. Il n'y a pas besoin de faire des grandes prières, des grandes trucs. Simplement en étant aligné avec l'autorité, eh bien les choses se font tout seul. Et Jésus dit, je n'ai pas trouvé dans tout Israël une aussi grande foi que dans ce monsieur qui est un soldat romain et qui a compris, parce que lui, il était soumis à l'autorité, que Jésus, quand il dit quelque chose, parce que lui-même, Jésus était soumis, son Père. Voyez, la soumission à quelqu'un d'autre de supérieur, bien sûr, après, à Dieu, ça s'arrête, parce que c'est l'autorité ultime, l'autorité absolue, l'autorité qui n'est pas au-dessus, il n'y a plus rien. Mais ça vient tout de Dieu, et quand on est aligné, eh bien, les choses, et l'ennemi ne peut pas nous toucher. C'est puissant. On a toujours peur de l'ennemi. Oh, l'ennemi, ceci, l'ennemi, cela, machin, etc. Depuis 98, je suis sorti de ça. Je suis sorti de ça. Parce que j'ai vu la puissance du droit et de l'autorité. Ricardo, que Dieu avait envoyé à l'époque, quand on était dans cette détresse de l'Église, il m'a dit, on va s'en sortir par acte 19. Ah bon ? Acte 19, c'est quoi ? Ah bah, c'est Artémis, la grande Artémis, pour laquelle tous les artisans, les orfèvres qui ont poussé à la roue, se sont sortis dans la rue et ont emmené Paul et Sylla et c'est Barnabas ? Paul et Barnabas ? Dans l'arène, dans la grande arène d'Éphèse. Et là, eh bien, il s'est passé une chose incroyable, c'est que le procureur a dit, écoutez, là, vous êtes dans l'illégalité, vous n'avez pas d'autorité pour faire ça, vous dégagez tout de suite, et c'est fini. Et Paul et Barnabas n'ont pas été lapidés. En général, ils ont toujours été sortis de lapidés de ce genre de situation, dans tous les autres textes. Et là, simplement par le droit et l'autorité que ce procureur avait, eh bien, ils ont été complètement délivrés, ils n'ont même pas une égratignure, rien, ils ont pu continuer à effet, etc. Et c'est ce qu'on a vécu, nous. 98, et c'est ce qu'on a vécu depuis. Moi, j'ai plus peur de l'ennemi, mais j'ai peur de ne pas être soumis à Dieu. Et ça, c'est la crainte du Seigneur. La bonne crainte du Seigneur, c'est dire, est-ce que je reste soumis à Dieu ? Et beaucoup, beaucoup de serviteurs de Dieu se cassent la figure. Pourquoi ? Parce qu'ils oublient la soumission à l'autorité. Ils commencent à faire des choses, à utiliser le pouvoir. Parce que quand vous êtes en autorité, vous avez la griserie du pouvoir. Et un jour, j'ai dit au responsable d'un ensemble d'églises évangéliques, tu sais, tu es en danger parce que le pouvoir corrompt, mais le pouvoir absolu corrompt absolument. Et ce que tu fais n'est pas juste. Effectivement, c'est la corruption totale. Quand vous n'avez plus de filet pour vous contrôler. C'est pour ça que le contrôle, le pouvoir et le contre-pouvoir sont importants, parce que ça permet à quelqu'un eh bien, d'avoir quelqu'un à côté de lui. On dit, attends, là tu n'es pas soumis. Tu n'es pas soumis à toi-même, tu n'es pas soumis à ta propre vision, tu n'es pas soumis, etc. Voilà, on se reprend. Et là, on en revient, on verra l'autorité dans le couple, on en revient à Éphésiens 5, 21. Qu'est-ce que dit Éphésiens 5, 21 ? Il dit, soyez soumis les uns aux autres. Oui, dans la crainte de Christ, exactement. Soyez soumis, ça veut dire quoi? Que la femme soit soumise à l'homme et que l'homme soit soumis à la femme. Alors, le problème, c'est qu'on est dans un paradoxe. Vous savez, les paradoxes, c'est assez fréquent dans la Bible, c'est-à-dire que deux choses contraires sont vraies en même temps. Et c'est ça qui nous perturbe aussi dans l'autorité. Donc je termine avec cette condition de soumission. La soumission doit être rendue à Dieu de façon inconditionnelle, mais elle est due aux frères et sœurs dans l'Église qui sont placés les uns à côté des autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Alors certains disent, je suis soumis à Dieu seul. Vous avez déjà entendu ça? Des chrétiens qui vous disent ça, souvent qui ne vont pas dans les églises. Ah, je suis soumis à Dieu seul. Et on l'entend de plus en plus. Ah ben, je peux vous dire que c'est une illusion. Il s'illusionne même. Il s'illusionne parce que justement, on doit être soumis les uns aux autres. Pas uniquement à Dieu. Qui peut être soumis à Dieu s'il n'est pas soumis à son frère? C'est un principe aussi biblique. Celui qui ne se soumet pas à son frère, c'est dans Jean 4, verset 20, qu'il voit est incapable de se soumettre à Dieu qu'il ne voit pas. C'est un peu paraphrasé par rapport à cet enseignement de Jean 14. Le deuxième élément important de l'autorité, c'est le serviteur, un esprit de serviteur. On ne peut pas exercer l'autorité si on n'a pas un esprit de serviteur. Servir le bien commun. Vous voyez, même dans le monde, ça marche. Moi, j'avais un patron qui s'appelle, vous connaissez, M. Gallois, voilà, qui était patron de mon entreprise. Bah, c'est quelqu'un qui est difficile à corrompre parce que, voyez-vous, on était combien, 200, 300 000, après le directeur de la SNCF, et après, c'est un grand serviteur de l'État, comme il se dit, quoi. Hein, voilà. Et ben, il repeignait sa maison, le crépi, l'été, chez lui. Oui. Et quand on lui a donné le salaire mirobolant, il a donné tout aux ONG. Il dit c'est scandaleux, quoi. Je ne peux pas recevoir un salaire comme ça. Alors que tous ses collègues, il les mettait en porte-à-faux, en particulier les Allemands, qui ont dit attends, tu nous fous dans la pétrasse parce que nous, on veut de l'argent. Oui. Mais quand vous êtes au service d'un bien commun, vous pensez au bien commun, vous ne pensez pas à votre bien à vous. Mais quand vous êtes le pouvoir, c'est ça qui est grisant, quoi. À un moment donné, vous pouvez avoir une possibilité de faire des choses incroyables. Donc, serviteur, être serviteur. Alors, c'est Jésus qui explique ça à ses disciples. Il dit, vous voulez gouverner? Eh bien, attention, attention. Les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Celui qui veut être grand, qu'il devienne serviteur, c'est-à-dire diaconos, diacre, Matthieu 20, verset 25. Voyez-vous, l'autorité agréable à Dieu, c'est non pas comme dominant sur eux, c'est Pierre qui le dira, ou alors dans Luc chapitre 10, c'est marqué « Je vous envoie comme des agneaux ». Au milieu des loups, mais les agneaux qui ont l'autorité qui vient de Dieu, les loups ne peuvent rien faire. Cette conception de l'autorité suppose de ne pas aimer l'autorité. Et alors là, on tombe dans l'autoritarisme. L'autoritarisme, ce n'est pas l'autorité. L'autorité, c'est un trait de caractère d'une personne. On confond l'autorité. On dit, ah oui, il est autoritaire. Oui, mais ça, c'est le caractère de la personne, ce n'est pas l'autorité. L'autorité est excellente, vous l'avez compris. Être autoritaire, c'est très très mauvais. Ça veut dire que je veux avoir raison. Alors, la distorsion de l'autorité, c'est l'autoritarisme. Par exemple, l'autoritarisme est souvent résumé par le célèbre phrase « J'ai raison parce que je suis le pasteur ». Voilà. Hein, voilà. Mais l'autoritarisme n'est pas toujours exercé de manière brutale. C'est pour ça qu'on ne le sent pas toujours comme ça, comme je viens de le décrire. Souvent, il y a des modes de manipulation qui remplacent discrètement cela. Voici quelques exemples. Une fausse délégation, et en fait, on fait un contrôle total. Vous voyez, on délègue, on fait semblant de déléguer, et en fait, on contrôle derrière. Ce n'est pas une vraie délégation. Et c'est de l'autoritarisme. Un chantage au comportement ou à l'engagement dans l'Église pour donner de la promotion. Bah, si tu fais ça, tu vois, tu peux avoir une promotion. Tu peux être à cette place-là, etc. Et dans tout organisme, c'est comme ça. Ou une utilisation abusive de versets, ce qu'on appelle les abus spirituels. Par exemple, dans 2 Samuel, on ne touche pas à loin de l'Éternel. Quel est le sens de cette expression? S'agit-il de rendre les responsables intouchables? Autre exemple, Hébreux 10, verset 25. Ne quittez pas votre assemblée. Dans ce verset, le mot par assemblée n'est pas ecclésia, mais un autre mot qui signifie rassemblement. Ainsi, le sens est d'exhorter les disciples à ne pas rester en marge et non de leur interdire de changer d'église locale. Et par exemple, dans 1 Timothée 5, 17, il dit « Le pasteur doit être honoré, mais un double honneur. » Mais il s'agit là d'un soutien financier. Et pas être honoré, être mis sur un piédestal. Donc voilà, c'est des abus de l'autoritarisme. Je termine par l'exercice de l'autorité qui est un devoir. L'exercice de l'autorité a un caractère impératif. Elle est reçue pour être exercée. Imaginez que vous élisiez un président de la République qui n'exerce rien comme pouvoir. Il n'exerce pas le pouvoir, il n'exerce pas l'autorité. Donc vous, vous êtes floué. Donc quand on reçoit l'autorité, c'est pour l'exercer. Voilà. C'est une mission, c'est un ordre. Et ce n'est pas facultatif, c'est impératif. Imaginez dans l'armée, hein, quelqu'un qui reçoit un ordre, qui ne l'exécute pas. Bah, il peut mettre toute la division en difficulté, c'est ce qui arrive quand c'est le cas. Si l'autoritarisme est une distorsion de l'autorité excessive, le manque, l'absence d'exercer l'autorité reçue est une distorsion tout aussi grave, puisque ça amène la malédiction. L'autorité représentée par le sceptre, je l'ai illustré tout à l'heure, va se transformer en serpent contre celui qui n'exerce pas cette autorité. L'absence d'autorité provoque des troubles dans l'Église, comme dans les familles, d'une égale gravité. La différence est que l'autorité excessive est perçue comme telle immédiatement et provoque très rapidement ses mauvais effets, alors que l'autorité non exercée n'apparaît pas de façon claire et ses mauvais effets sont plus longs à percevoir. Ça prend plus de temps à le percevoir, mais c'est tout aussi grave quand c'est le cas. Ne pas exercer l'autorité reçue, c'est la faire décroître. Et c'est de perdre l'autorité qu'on a reçue. Et Dieu est obligé de changer de porteur d'autorité. Exemple, on se laisse dominer, on se laisse manipuler, on se laisse chanter, refuser de prendre position, s'opposer, fuir les conflits quand il faut les résoudre. C'est une façon de ne pas exercer l'autorité ou de la faire décroître en tout cas. C'est aussi la fermeté sur les enfants. Un père pourrait prier ainsi. « Seigneur, tu m'as donné un fils. Ce n'est pas mon fils, ni mon autorité. Aussi, valide l'autorité que tu m'as donnée sur lui. » Eux, on joue sur l'autorité, alors qu'en fait, on doit l'exercer. Un père doit exercer l'autorité. Il ne doit pas en parler, ou ne doit pas invoquer une autorité, etc., spéculative. Paul n'a pas hésité à juger le comportement fautif de Pierre. Il a repris Pierre, immédiatement. Il dit, Pierre, non, ah, t'es hypocrite, là. Ah, tu t'en vas d'une réunion là que j'arrive, parce que c'est des non-juifs, et toi, tu as dit que les non-juifs aussi étaient sauvés. Vous voyez, donc il a repris immédiatement. Voilà, ça c'est Paul a exercé son autorité vis-à-vis de Pierre. Un responsable doit faire attention à ce qu'il laisse dire ou faire dans le cadre de l'autorité qu'il exerce. Il ne peut pas laisser dire n'importe quoi. Sinon, il baisse le niveau de l'autorité qu'il a reçue. Il devrait intervenir clairement, et si quoi que ce soit se produit dans l'Église qui n'est pas conforme au caractère de Dieu, il faut qu'il reprenne les choses. Donc présider une assemblée de manière pastorale, par exemple, n'est pas un rôle seulement protocolaire, mais c'est exercer une fonction de protection. de l'Assemblée. En 98, on a vu beaucoup de choses, et entre autres un couple tout jeune venait de se marier, et le monsieur est venu me voir en me disant « Ah, de toute façon, le rôle du pasteur, c'est juste se mettre derrière et serrer la main des gens quand ils partent. » Je dis « Ah bon, d'accord, je ne savais pas. Bon, inutile de dire qu'ils sont partis. Hein, bon. Voilà, parce que si c'est ça le rôle du pasteur, de serrer la main à la sortie, hein, bon, je veux dire, c'est quand même prendre l'autorité pastorale. Voilà. Mais bon, vous avez tout un monde hein, d'entre la façon dont on soit les choses. Non, l'autorité pastorale, c'est aussi d'exercer la discipline. Mais c'est surtout de protéger les brebis, de protéger. Moi, j'ai compris ça. Mon rôle majeur, je dirais régalien, qui renvoie le rôle du roi qui doit régner, c'est de vous protéger des loups qui sont tout le temps présents, y compris chez certaines personnes, parce qu'en fait, Judas était un loup au milieu des douze, hein, il faut faire attention. Parce qu'on a tous tendance à nous laisser aller à un moment donné en autre. Donc voilà, le rôle pastoral, enfin du président de l'Assemblée d'une église, c'est d'assurer la protection. Protection des frontières, protection du territoire, protection des brebis qui sont dans l'enclos et que le loup ne doit pas dévorer. Les responsables qui manquent d'autorité, eh bien, sont paradoxalement les personnes qui exercent souvent une autorité humaine excessive. C'est paradoxal. Mais très souvent, ceux qui manquent d'autorité, qui ne savent pas ce que c'est que l'autorité, ils sont excessifs dans leur autorité, dans l'exercice de leur autorité. Bon, ce sera développé, je n'ai pas le temps ce matin. Je termine par certaines slides, mais comme ils sont un peu chargés, je ne vais pas tout expliquer. C'est juste pour montrer sur quoi s'appuie aussi ce modèle d'autorité. C'est sur le fonctionnement de Dieu. Dieu, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a une hiérarchie, donc l'autorité c'est hiérarchique, mais aussi holacratique. Holacratique, ça veut dire que c'est maintenant ce qu'on appelle les méthodes agiles, hein, c'est où la raison d'être de l'organisme est diffusée dans chaque membre. Et dans chaque membre, ici, Père, Fils, Saint-Esprit, ils sont conscients d'être Dieu. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les soutiens de Dieu, les hypostases, les personnes de Dieu. Bien qu'on ne puisse pas les séparer, on peut les distinguer. Le Père, c'est le Créateur, ex nihilo, à l'origine de tout, y compris de l'autorité. Le Fils, qui est soumis au Père, et le Père est soumis au Fils en fonction de sa mission, s'il l'a fait bien, c'est l'autorité, l'exousia. J'ai reçu l'exousia dans le ciel et sur la terre. Et l'Esprit, qui est la puissance, source de vie dynamique, et l'ensemble donne gloire à Dieu. Vous voyez, c'est une démarche au sein de la communauté divine qui est un modèle pour le fonctionnement de l'autorité. Et si on applique ce modèle-là, on va l'appliquer dans différentes situations, eh bien, tout s'explique, la parole de Dieu s'explique clairement. Donc, au niveau de l'Église, c'est Petra, c'est le rocher, c'est Christ hein, qui dit « Tu es Pierre, Petros, et sur cette pierre, Petra, je bâtirai mon église, mon ecclésia, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Vous voyez, l'autorité fait que quand l'église fonctionne selon ce principe, l'ennemi ne peut rien faire, c'est le droit. Okay, voilà, vous avez ça. Et Christ est soumis au Père, sinon il ne pourrait pas avoir d'autorité. Christ, Pierre, le collège des anciens, maintenant on les appelle autrement, comité de direction, peu importe, et l'Ecclésia. Donc quand l'Église est constituée comme ça, l'ennemi ne peut rien faire. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Le couple, bah, c'est Christ, l'homme et la femme, et pas l'inverse. Et c'est ce que Paul dénonce dans 1 Timothée 2,15. Il dit les gnostiques qui disent que c'est la femme qui est premier, l'homme. Vous voyez pourquoi? Parce que c'est inversé. C'est l'esprit d'Isabelle. Ça, on reviendra plus tard dans la rentrée quand on fera l'enseignement sur le couple et la famille. Dans l'action aussi, c'est la vocation. Le Père appelle une vocation. Et cette vocation amène à la mission, c'est-à-dire les tâches prioritaires, et l'accomplissement. Et ça, c'est Philippiens 2, 12 et 13, qui dit « Car Dieu... » Alors, j'ai perdu le début. Oui, mettez en œuvre votre salut, travaillez votre salut. Car c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Et où c'est Dieu qui nous aide à accomplir ce qu'il nous demande de faire. C'est-à-dire qu'on rentre dans notre destinée par la vocation que nous avons. Donc si nous entendons notre vocation, par exemple l'Église ici, on a entendu notre vocation sur les familles. Dieu nous a appelés pour restaurer des familles, construire des familles, pour donner les bons enseignements aux familles. Eh bien, on en voit les fruits au bout d'un certain temps. Mais ça, on l'a reçu il y a 25 ans, cette vocation. Et aujourd'hui, avec le ministère de la Maison d'Élie, on en voit l'outil, c'est le pouvoir. C'est l'outil qui permet effectivement maintenant de rentrer dans cette vocation et d'établir des familles qui soient solides et qui puissent durer. Voilà, donc tout ça, on reviendra plus tard sur. Voilà. Mais c'est juste pour montrer qu'il y a un modèle, hein, le modèle de la Trinité divine, qui est un modèle de communauté dans lequel commence l'autorité, mais qui est exercée à l'intérieur même de la communauté, et qui est un modèle pour nous. Et c'est Christ qui est le second Adam, qui lui n'est pas corruptible, qui lui est le nouveau chef, la nouvelle autorité, si on est soumis à Christ. C'est pour ça que c'est dans la crainte du Seigneur, comme le dit Bruno, soumettez-vous les uns les autres dans la crainte du Seigneur, sous l'autorité du Christ. Et là, le couple peut tenir. C'est pourquoi on enseigne, en tout cas, bien sûr, maintenant on nous reproche ça aussi, que les couples se mettent sous le même joug. C'est-à-dire que c'est des couples chrétiens qui doivent se... Parce que sinon ils ne pourront pas vivre ça. Parce que s'il y en a un des deux qui n'est pas soumis à Christ, ils ne peuvent pas vivre la vraie autorité. Parce que l'autorité vient de Dieu. Si on ne reconnaît pas Dieu, on ne peut pas vivre la vraie autorité. Vous voyez ? Parce qu'il y aura toujours un abus. L'homme, la femme, ou la femme, l'homme, parce que c'est le papa d'Isabelle qui m'a éclairé. Moi, j'écoute beaucoup aux portes un peu des personnes un peu plus en âge qui me disent ça. Puis, lui, il était en Algérie, je ne sais pas combien de temps il était en Algérie. 4 ans. Il était en Algérie, c'est incroyable. Il m'a dit, moi j'étais pasteur là-bas, et j'allais dans les maisons et tout ça. Et il dit, vous savez, en Algérie, vous voyez les hommes qui marchent devant. Et la femme est derrière. Hein, oui. C'est lui l'autorité. Oui. Enfin, voilà. Mais il dit quand vous rentrez chez eux, c'est l'inverse. Hein. Le bonhomme, là, c'est le petit garçon. Hein. Il saute à la corde. Hein. C'est la femme qui commande tout. Hein. C'est ce qu'il m'a dit. Hein. Voilà. C'est Roger. Il m'a dit non, il ne faut pas se méfier. Moi, je suis rentré dans les maisons voir mes paroissiens. La femme, le bonhomme, il était sous ses pieds. Hein. Vous voyez. Alors, c'est quoi ça? Où est l'autorité? C'est juste une façade, quoi. Hein, vous voyez, comme quoi, le monde, hein, si vous regardez bien le monde, il est vraiment corrompu. Il est corrompu. Ce que vous voyez, faites attention, c'est pas la réalité. Regardez derrière le rideau. Moi, je regarde toujours derrière le rideau, ce qui se passe derrière. Et là, je comprends des choses. Je dis, oh là, d'accord, j'ai compris. Hein, c'est peut-être très beau, mais c'est du cinéma. C'est Hollywood. Mais Hollywood, ça marche pas. C'est ou du vrai, ou du pas vrai. Amen. Et le vrai, c'est en Jésus. Le vrai, c'est en Christ. Le vrai, c'est Christ qui s'est soumis à son Père jusqu'au bout. Il s'est soumis à sa condition qu'il a reçue en tant que mission. Et c'est parce qu'il s'est soumis qu'il a pu exercer l'autorité. Et que le diable n'a rien pu faire, et même pas la mort. La mort a été vaincue. Parce que c'est le dernier ennemi qui sera détruit, dit la parole de Dieu. La mort a été vaincue. La mort n'a pas pu le retenir parce qu'il était sous l'autorité de Dieu. Et Dieu est le prince de la vie. Dieu est le prince de tout l'univers. Et rien ne peut lui résister. Quand on est soumis à l'autorité, eh bien, on peut marcher droit. Et comme Jésus, quand son heure n'était pas venue, personne ne pouvait l'arrêter parce qu'il marchait dans l'autorité. Le jour où il est venu, il a livré sa vie. Vous voyez, serviteur, livrer sa vie. Amen. Seigneur, aide-nous à comprendre les principes d'autorité. Que ce soit des choses qui puissent être des choses mauvaises qui dans nos pensées ont été véhiculées par notre expérience peut-être ou par toute autre chose, puissent être remplacées par ta parole. Et nous te remercions pour cette parole qui est claire et qui nous enseigne, Seigneur, l'autorité. Nous te bénissons pour le fruit que ça va porter dans chacune de nos vies, dans chacune de nos expériences de vie. Père, à toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen.